chaleureusement de m'accueillir ici. Et puis vous avez fait un exposé solide et, comment dirais-je, qui nous montre un peu les hiérarchies célestes, l'organisation de Dieu le Père, du Fils et du Saint-Esprit, car on ne peut pas les séparer. Et puis, vous allez maintenant peut-être vous demander ce que je vais pouvoir vous dire. Alors, je n'ai pas, comment dirais-je, je n'ai pas d'exemple merveilleux comme les histoires que vous nous avez racontées, qui sont des choses merveilleuses, mais c'est plutôt une... Oh, c'est peut-être très... C'est peut-être idiot ce que je vais dire, mais vous fouetterez mon ange gardien s'il ne me souffle pas ce que je dois dire. J'ai, pour faire ce travail, j'avais commencé il y a longtemps, chose que mon éditeur ne sait peut-être pas, mais c'était pour moi une émission sur Radio Courtoisie que je devais faire avec mon ami Gérard Marin. Et Gérard Marin est mort subitement au moment où nous devions, non pas la faire, mais au mois de juillet, alors que c'était une émission qui était prévue pour le mois d'août. Et puis, moi, j'ai toujours été assez fidèle aux anges gardiens, je les aime bien, et pas seulement les anges gardiens, mais aussi les autres. Et puis, pour moi, les anges, ce sont d'abord des créatures qui nous ont précédés, mais j'allais dire, c'est le plan B de la Sainte Trinité. Parce que les anges ont été créés avant nous, bien avant nous. Dieu Tout-Puissant et Omniscient, il devait bien savoir qu'Adam et Ève feraient des bêtises au paradis terrestre. Donc il fallait trouver un système pour que son amour de la création et dans la création, eh bien, trouve une solution à côté de ce qui n'avait pas marché. Et alors, les anges ont été certainement des aides extrêmement précieuses. D'abord, s'il y a un ange qui a présidé à la sortie de nos premiers parents du paradis terrestre, d'après la Bible, et... je ne sais pas, des esprits facétieux, ont résumé l'histoire d'Adam et Ève par une pomme, une poire et des pépins. Bon, alors, bon, c'est comme ça, mais il fallait réparer. La réparation était déjà prête dans le cerveau de Dieu, si je puis dire, si je puis prendre cette comparaison. Enfin, l'omniscient et l'omnipuissant savait comment ça allait tourner. Et alors, il a eu dans la tête de créer l'Immaculée Conception. Et alors, ce que je voulais dire, c'est que les anges nous invitent à prier leur reine, c'est-à-dire Marie, Mère de Dieu. Et je vous inviterai à l'occasion, et puis si vous pouvez, je vous inviterai à vous procurer l'ouvrage de Michel Reboul sur l'Immaculée Conception, clé de voûte de l'Église, de notre doctrine et de tout. C'est un livre admirable, d'une richesse extraordinaire, et il est tellement riche, il fait 500-600 pages. Mais n'ayez pas peur du volume. On peut très bien picorer, aller à droite, à gauche, on n'est pas obligé de tout lire à la suite. Et c'est un texte qui est extrêmement abordable. Et qui nous rappelle qu'il y a un très beau chapitre qui s'appelle « Marie, reine des anges ». Et pourquoi est-elle reine des anges? Parce que Marie, conçue, j'allais dire, par Dieu de toute éternité sans péché, a été la femme incarnée qui allait être la mère de Dieu, et devant la Mère de Dieu, les anges, créatures spirituelles et immatérielles, ne pouvaient que s'incliner. Et c'est la seule personne devant qui les anges ont pu s'incliner à l'Annonciation et puis après et toujours. Et je dois dire que pour la, comment dirais-je, pour l'amour que l'on peut témoigner à Marie, reine des anges, eh bien, le livre de Michel Reboul est épatant. Et puis, c'est mettre le ciel et la terre ensemble, parce que Marie est incarnée comme nous, et les anges, eh bien, font la navette entre Dieu et nous. Et quand je dis qu'ils font la navette, je reprends Bossuet. Il dit, ils montent, ils descendent, et vous verrez, c'est un yo-yo permanent, enfin, c'est assez extraordinaire. Et alors ces anges qui nous donnent le culte de la Vierge Marie, et qui sont en même temps des, j'allais dire, la preuve de l'amour du bon Dieu pour nous et pour chacun. Puisque nous avons des anges gardiens, mais les pays ont aussi leurs anges gardiens, chacun. Et tout cela fait que dans l'économie du salut, nous ne sommes pas abandonnés, et nous avons tous quelque chose à nous. Et c'est la présence du ciel sur la terre, par l'intermédiaire des anges, que nous ne voyons pas, mais qui sont là. D'ailleurs, si vous prenez un train et si vous êtes inquiet pour vous réveiller, priez votre ange gardien, vous verrez, il vous réveillera et vous prendrez votre train. Des histoires merveilleuses, je crois qu'il va falloir faire un florilège.
Oui.
D'ailleurs, des bonnes histoires où les anges interviennent, comme ça, d'une façon un peu crypto, mais assez extraordinaire. Non, c'est une chose qui est passionnante. Et les textes que j'ai pu choisir, parce que je ne les ai pas inventés, vous pensez bien, je les ai trouvés, et j'ai essayé dans ce petit bouquin de mettre des textes d'auteurs très différents, de moines, de Pékin, de personnes comme le père Kolb, comme le frère Mucien dont je vous parlerai tout à l'heure. Mais tout cela, c'est une espèce de rassemblement de piété individuelle aux anges. Et alors, c'est le point de vue des humains tels qu'ils ont prié les anges. Vous comprenez, le ciel, les anges, c'est le ciel. Et le ciel et la terre, c'est la réponse de la terre au ciel. Et en même temps, il y a une chose qui est assez extraordinaire, c'est que dans beaucoup de textes, on trouve, j'allais dire, une prière de reconnaissance à transmettre à Dieu par les anges. Et les anges sont, j'allais dire, nos correspondants avec le ciel. Imaginez, je ne sais pas, Dieu peut recevoir tout d'un coup, mais de temps en temps, il doit bien serrer un peu les problèmes. Et alors, on peut peut-être se faire entendre d'une façon individuelle et portative, comme disait l'autre, par quelque ange gardien. Et ça, c'est une chose qui est quand même magnifique et qui réchauffe le cœur. Et en même temps, dans notre temps qui n'est pas très favorisé, si vous voulez, par les événements, je crois que les anges doivent être beaucoup priés par nous, parce que ils sont les messagers, ils sont entendus par le bon Dieu, qui compte sur eux d'ailleurs, parce que ce sont des messagers, mais messagers dans les deux sens. Et ce sont des interprètes, et ils peuvent se faire entendre beaucoup mieux que nous ne saurions le faire. Ce sont des porteurs de prières, des porteurs de merci, des porteurs d'amour vers le bon Dieu. Et d'autre part, je crois que dans cette situation un peu brouillée que l'Église aujourd'hui connaît aussi, il faut prier les anges gardiens pour ceux qui sont en difficulté, pour les évêques, pour les princes de l'Église, pour tous ceux qui, au Vatican comme ailleurs, sont en train d'échafauder des plans pour savoir comment ils vont parler. Parce que c'est très difficile de parler pour se faire entendre. Alors, il ne faut pas vexer, il ne faut pas ci, il ne faut pas ça, on a la trouille de tout aujourd'hui. Et au Vatican comme ailleurs. Bon,
il y a une tradition qui dit que quand on devient prêtre, on aurait un ange ministériel.
Ah oui ?
On aurait on a notre ange à notre conception, et un deuxième ange nous serait donné à cause des dangers qu'il y a autour d'un prêtre. Et cet ange est proportionné au fait que ce prêtre puisse devenir évêque. Et donc, c'est l'ange, ce qu'on appelle l'ange ministériel. Oui. Saint François de Sales croyait dans l'existence de ces deux anges pour un prêtre ou un évêque.
J'avais entendu ça, j'ai pas mes sources, mais j'avais entendu ça pour les médecins aussi.
Enfin, alors là, je l'ai jamais entendu.
Mais il faut dire que les médecins ont aujourd'hui, avec tout ce que l'on fabrique comme loi antifamiliale et j'allais dire antinaturelle, ils ont bien besoin de deux anges, sinon de trois.
Oui.
Enfin, je ne sais pas, ce n'est pas moi qui m'occupe des mobilisations célestes. Enfin,
c'est le cas de Monseigneur Petit, alors.
Oui, oui.
Blague à part.
Dans ce récit de cette mystique, qui dit à ce prêtre qu'elle voit l'ange de son diocèse, mais là, pour le coup, ce n'est pas un ange à titre d'évêque, c'est l'ange à titre de titulaire de ce siège épiscopal. Cet ange, lui, restera toujours. C'est comme l'ange du Portugal qui a une apparence d'un adolescent d'une quinzaine d'années, disent les enfants de Fatima. Et là où l'ascenseur entre Dieu et nous, et les créatures, c'est qu'il est translucide, il voit Dieu. Il est en Dieu, cet ange. Il est à la fois dans le village de Fatima et il voit Dieu. La Vierge Marie, son âme est plongée en Dieu, son corps est transfiguré et elle peut limiter la lumière de cette transfiguration comme à la rue du Bac.
Oui.
Mais sinon, à Lourdes, elle était assez lumineuse. Hein. Bernadette dit qu'elle était très belle. Et alors à Fatima, elle était brillante comme le soleil. Et eux pouvaient la voir quand même, ils n'étaient pas aveuglés. Eh bien, les anges, eux, quand ils apparaissent, ils peuvent être pas lumineux ou très lumineux. Vous avez l'ange de Sainte-Catherine Labouré, rue du Bac, un petit garçon de 5-7 ans, qui l'a dit, il faut s'habiller, il faut descendre à la chapelle. Donc, elle s'habille, elle descend, elle croit rêver, hein, parce que... Elle descend, tout est allumé, vous avez les becs de gaz, je pense, à l'époque.
Oui, à l'époque, oui.
Elle arrive à la chapelle, et l'ange, le petit garçon, lui dit, on attend. Donc elle attend. Et puis, au bout d'un certain temps, le petit ange dit, elle arrive, avec une voix enfantine. Elle arrive. Et là, la troisième fois, elle dit, avec une voix d'homme, tout en gardant l'apparence d'enfant, elle arrive. Catherine a dû avoir un petit... Et elle entend quelqu'un marcher derrière elle, monter la nef, faire la révérence devant le Saint-Sacrement, parce que même si la Vierge Marie est dans l'éternité et voit son Fils dans sa divinité, c'est pas la bilocation pour Dieu, c'est l'ubiquité.
Oui.
Son Fils est aussi là, dans l'hostie, dans le tabernacle. Elle fait, alors que son âme est plongée en Dieu, n'est-ce pas ? Elle fait quand même la révérence au Saint-Sacrement et va s'asseoir sur le siège du prêtre. Et là, elle dit, elle appelle Catherine, Sainte Catherine Labouré se lève, va se mettre à genoux devant la Vierge et va poser ses mains sur les genoux de la Vierge. Mais la Vierge Marie, semble-t-il, est venue rue du Bac en chair et en os. Physiquement, elle était rue du Bac.
Oui.
Eh bien, le petit ange, lui, il a disparu parce que lui, son corps, c'est un amalgame. C'est pas, mais c'est beau ce récit que nous donnent les sœurs là-bas à la rue du Bac, de cet ange gardien de Sainte Catherine Labouré qui l'a amené. Le récit des anges à Fatima est très impressionnant. Et là, actuellement, pour le synode sur la famille, le pape François a demandé à ce qu'on prie Saint-Michel Archange, qui est l'archange tutélaire de l'Église catholique et du peuple hébreu. Il présidera à la conversion des Juifs à la fin des temps.
Et de la France.
Et il est patron secondaire de la France. Mais là, actuellement, le pape a dit, il faut dire le chapelet, prier le subtum presidium, sous votre protection, très bien, Vierge Marie, nous confions, et le Sancte Michael Arcangeli, le Saint Michel Archange.
Et oui. Et alors, j'avais encore, je crois, deux petits points sur lesquels je voulais attirer, parce que je n'allais pas vous lire les textes, hein. Les textes, on les trouve imprimés.
Un petit peu les meilleurs.
Je vous en lirai un. Mais les. Comment dire. Je crois qu'il faut attirer aussi l'attention sur les anges dans la liturgie. Parce que les anges sont dans la messe à tout bout de champ. Ils sont tout au long de la messe. Vous les retrouvez, prenez votre missel et puis cochez les anges au fur et à mesure.
Alors j'ai une mystique. Il me dit, mon père, j'étais à une messe et on n'était que trois ou quatre. Et j'étais triste. Alors ça peut être imaginatif. Et pendant deux, trois secondes, j'ai vu les anges. Et elle a vu des milliers d'anges qui étaient tout autour de l'autel. Et ça a disparu. Elle a été consolée pour longtemps.
Ben oui, j'imagine. Non, mais c'est pour
ça. Il n'y a pas grand monde. Elle a vu des milliers d'anges qui étaient là en adoration devant.
C'est pour ça, on est en bonne compagnie. Et pour redescendre un petit peu sur la terre, vous voyez que ces anges invisibles, immatériels, immédiats, tout ce qu'on veut,
sont très présents.
Eh bien, nous essayons quelquefois, enfin, les artistes essaient de nous les montrer, de nous les faire vivre devant nous. Alors, vous voyez les peintures, toutes les peintures où il y a des anges, dans les écoles flamandes, dans les églises de Rome, je vois les Filippino Lippi qui, de la Minerve, il y en a partout. Regardez dans les églises de Paris, dans combien d'églises vous trouvez deux anges, un de chaque côté du maître-autel. Bon. Et puis, et puis dans la musique aussi.
Ah ben la basilique Saint-Pierre, il y a des anges strictement partout.
Partout, oui, c'est vrai.
Où vous portez votre regard, il y a une statue d'ange. Partout.
Ah oui, ça ne se cache pas là. Hein.
Oui. Et alors, lors des troubles de la Sainte Église, vous aviez un prêtre qui était arrivé et qui voulait célébrer la messe autour de la sacristie. Et le prêtre, parce que là-bas, la sacristie est tellement importante, c'est un prêtre qui est responsable de la sacristie. Il a dit, mais non, c'est trop tard, le tour des messes est terminé, vous voyez bien, une demi-heure peut-être, mais j'ai personne pour vous servir la messe. Et à l'époque, c'était strict, on devait avoir quelqu'un de présent. Et là, il a dit, mais pour moi, c'est très important, je ne pourrais pas célébrer, je peux célébrer seul, exceptionnellement. Ça commençait à être permis. Et il lui dit, je célébrerai in conspectu angelorum, sous le regard des anges. Et là, le prêtre sacristain de la basilique Saint-Pierre du Vatican dit ben alors, les anges, d'un air de dire qu'ils n'existaient pas. Il n'avait pas terminé sa phrase que pour ce prêtre, ces deux prêtres, tout d'un coup, la basilique est devenue lumineuse, un flash terrible pendant plusieurs secondes. Totalement lumineuse, impressionnante de lumière, et ça s'est arrêté. Et bien le prêtre a servi la messe de son confrère.
Ben ça l'a dressé, c'est bien.
Et d'avoir nié l'existence des anges dans Saint-Pierre de Rome, et ben, alors ça peut être inventé tout ça, mais ce sont des petites Fioretti qui courent et qui courent.
Exactement. Alors, on peut aussi parler de la messe des anges, qui est la messe grégorienne la plus connue et la plus, j'allais dire quelquefois la plus abîmée. Mais enfin, elle est quand même belle quand on la chante bien. Alors, c'est celle qui est vraiment la plus connue depuis qu'on ne pratique plus le latin dans beaucoup de paroisses. Eh bien, quand on veut chanter quelque chose, on prend la messe des anges. Et puis, je ne sais plus ce que... Attendez. Oui, puis vous avez vu à l'opéra même, ça, dans Faust, Marguerite à la fin, ange des cieux, portez mon âme au sein des cieux, etc. Vous avez les anges partout. Et puis je le souligne parce que Gounod a été très aimé et très célébré à Saint-Eugène. C'est certainement la seule paroisse de Paris où on en ait fait autant pour lui.
Tout à fait.
Et c'est bien. Bon, et puis, alors, je voulais vous dire aussi que les anges sont à notre disposition, puisque ce sont nos anges gardiens. Nous avons le droit de les utiliser. Alors moi, quand je ne peux pas aller à un mariage ou à un enterrement, quand j'envoie mon ange gardien, alors je trouve que je suis bien représenté. Voilà, et puis alors je crois que je vais vous lire, parce que je vais retrouver cette prière du frère Mucien. Le frère Mucien, ben, vous savez, je l'ai retrouvé en cherchant des textes. Et le frère Mucien, je me suis rappelé que quand j'étais petit garçon, ma grand-mère, c'est vieux ça, hein, parce que ma grand-mère est morte en 1952 et elle était déjà d'un certain âge, et moi aussi aujourd'hui. Alors, ma grand-mère avait une grande dévotion au frère Mucien. C'était un frère des écoles chrétiennes, c'était pas un aigle, on savait pas trop où le mettre et tout ça, mais il était tellement bon avec les enfants qu'il s'occupait des petits-enfants au catéchisme. On lui avait trouvé un petit job comme ça en Belgique, à la frontière belge, parce que comme mes grands-parents habitaient à la frontière belge, l'aura du père Mucien était arrivée jusque chez eux. Et alors, il y avait une prière qui était faite à l'ange gardien par le frère Mucien, que je dois retrouver, et c'était... Cette prière, je l'avais bien aimée, et puis quand j'ai fait une petite émission l'autre jour avec notre ami Philippe Pichot-Bravard à Radio Courtoisie, il m'a dit, je vais vous lire la prière du frère Mucien, c'est le texte qui m'a le plus touché. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu cette émission, moi je ne l'ai pas entendu. Alors, je retourne au frère Mucien. Alors, c'est « Dévotion à mon bon ange. Après mon bien-aimé Saint-Joseph, je professe pour mon bon et saint ange gardien une toute particulière dévotion. Quelle tendresse d'affection je lui porte. Il me la rend bien. Lui, prince de la cour céleste, veut bien non seulement m'aimer tendrement, mais encore se faire mon petit serviteur. Il fait ce que je lui demande. Il s'acquitte aimablement de toutes les commissions dont je le charge. Il porte mon cœur à Jésus, au tabernacle. Mes prières, mes sacrifices, mon amour, mes louanges à Marie, ma douce maman. Il va embrasser maman et tous les membres de la famille pour moi. Il les console, les fortifie, les aide. Je l'envoie aussi auprès des âmes que j'aime. Que de voyages je lui fais faire en un jour. La Chine, l'Amérique, le Congo le voit souvent. Combien nous nous aimons. Je le sens parfois si près de moi, mon bon ange. Oh, qu'il est bon, qu'il est aimable. J'ai su bien souvent que les messages que je lui donne sont accomplis. Quand je pressens un danger moral ou physique pour une âme, un élève, un confrère, un ami, un parent, de suite j'envoie mon bon et saint ange gardien à son secours. J'aime beaucoup la dévotion aux saints anges gardiens. J'en parle assez souvent et je prépare une série de réflexions pour mon usage personnel dans le but de parler plus souvent de ces bons gardiens. Je l'ai déjà dit peut-être deux fois au cours de ces pages, mais en 1913 et en 1915, j'ai pu communier grâce à l'aide qu'il me donna dès le premier mot de ma prière. Remercier mon bon et saint ange gardien pour sa tendresse et son dévouement à mon égard, pour tous les bons offices qu'il me rend, pour les grâces qu'il m'obtient, pour la protection dont il m'entoure. Imiter mon bon et saint ange gardien, comme lui, me tenir sans cesse amoureusement anéanti devant Dieu, prêt à accomplir la volonté divine. comme lui, veillez avec sollicitude sur les âmes qui me sont confiées. Invoquez mon bon et saint ange gardien dans les dangers du corps, dans les périls de l'âme, dans les doutes et les anxiétés, dans les difficultés de la classe, de l'emploi. Priez humblement mon bon et saint ange gardien d'aller visiter ceux que j'aime pour les consoler, les fortifier, les éclairer, les soulager, les guérir, les garder du mal, les protéger. De m'avertir des besoins, des dangers de ceux qui me sont chers, d'arranger si bien toutes choses que je ne perde jamais une sainte communion. Je trouve que ce texte est magnifique, il est tout simple. Hein. On n'a pas besoin de sortir de pipeau pour en faire l'analyse. Hein. C'est un texte de confiance et d'abandon qui est magnifique. Et c'est une âme simple. Bon, ben, c'est le genre de gens que j'aime beaucoup. Voilà tout ce que je pouvais vous dire. Je pourrais encore en parler pendant des heures, mais enfin, je pense que vous devez avoir besoin de vous reposer à cette heure-ci.
Ce que vous allez faire,